Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, dans l'Évangile, généralement, la richesse est présentée comme un obstacle au salut. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille? Cependant, aujourd'hui, notre Seigneur enseigne aux riches un moyen très simple de sauver leur âme. C'est le seul évangile de toute l'année qui laisse entrevoir aux riches l'espérance et le moyen de sauver leur âme. D'où l'intérêt pour eux de bien en retenir la leçon. Mais ne pensons pas trop vite que cet évangile ne nous concerne pas parce que nous n'avons pas un grand compte en banque. En effet, la richesse, ce n'est pas seulement l'argent ou les biens matériels, mais c'est aussi tout ce que le bon Dieu nous a donné, notre âme, notre corps, les facultés de notre âme, et toutes les richesses, tous les biens spirituels que le bon Dieu nous a donnés, notamment au baptême, nous avons la foi, puisque nous sommes ici. Et la foi, c'est la plus grande richesse. C'est la vie éternelle commencée. Nous allons donc commenter simplement l'Évangile pour essayer d'en bien comprendre la leçon et de savoir comment utiliser les richesses que le bon Dieu nous donne pour aller au ciel. Un homme riche avait un économe et celui-ci fut accusé auprès de lui de dissiper ses biens. Cet homme riche, c'est Dieu. L'économe, nous l'avons dit, c'est chacun d'entre nous. Voici ce que dit saint Jean Chrysostome. Qui que vous soyez, rappelez-vous que vous n'êtes que le dispensateur de biens qui ne vous appartiennent pas et que vous n'avez sur eux que les droits d'un usage transitoire et passager. L'économe qui est accusé auprès de son maître d'avoir dissipé ses biens, c'est encore nous, car nous abusons des biens que le bon Dieu nous donne pour satisfaire nos passions. Le maître appela son économe et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus désormais gérer mon bien. » Nous voyons tous les jours des économes de ce genre rappelés par leur maître. C'est une mort soudaine, c'est l'annonce d'une maladie fatale, d'un cancer par exemple. Alors l'économe se dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte la gestion de son bien? Travailler la terre, je ne le puis, et je rougis de mendier. » Visiblement, l'économe n'est pas prêt à rendre compte de sa gestion. Et nous, sommes-nous prêts? Car ce n'est pas au dernier moment qu'il faudra se mettre à travailler. À ce moment-là, nous n'en aurons plus la force. Ce n'est plus non plus au dernier moment que nous pourrons commencer à mendier. Rappelez-vous la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles qui demandent aux vierges sages de leur donner de leur huile. Et celle-ci leur dit que ce n'est pas possible. C'est maintenant, pendant notre vie, pendant que nous avons la force, que nous devons travailler et que nous devons mendier, c'est-à-dire prier. Je sais ce que je ferai, afin que lorsque j'aurai été destitué de la gestion, il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Il convoque donc l'un après l'autre les débiteurs de son maître et il leur remet une partie de leur dette. Ce moyen est évidemment malhonnête et ce n'est pas cela que le bon Dieu nous demande d'imiter. Écoutons encore Saint Jean Chrysostome. Celui qui pense au jour de sa mort, et cherche en faisant le bien à rendre moins accablant le poids de ses péchés, soit en remettant leurs dettes à ceux qui lui doivent, soit en donnant aux pauvres d'abondantes aumônes, celui-là distribue les biens du Seigneur pour se faire beaucoup d'amis, qui rendront un bon témoignage de lui devant son juge, non par leur discours, mais en manifestant ses bonnes œuvres. Et ils lui prépareront par leur témoignage un lieu de rafraîchissement et de repos. Et le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont dans leur monde plus prudents que les enfants de lumière. Julien l'Apostat et certains hérétiques ont prétendu que l'Évangile faisait ici l'apologie du vol, de l'injustice. C'est évidemment faux. Notre Seigneur, à travers cette parabole, veut simplement louer l'économe d'avoir pourvu à son avenir, mais il ne le loue pas en tout. Il l'appelle même un économe infidèle, vilicum iniquitatis. Et quand l'Évangile dit que l'économe agit avec prudence, il faut prendre aussi ici le mot prudence dans un sens large. Comme il est dit dans la Genèse que le serpent était le plus prudent des animaux, c'est-à-dire le plus rusé, le plus habile. Voici comment il faut comprendre cette phrase d'après saint Augustin. Si cet économe, tout en se rendant coupable de fraude, a mérité les éloges de son maître, combien plus ceux qui font des bonnes œuvres en se conformant aux préceptes de Dieu seront-ils assurés de lui plaire? Et que signifie cette phrase « Les enfants de ce siècle sont dans leur monde plus prudents que les enfants de lumière ». Les enfants de ce siècle, ce sont ceux qui ne pensent qu'à ce monde d'ici-bas, qui ne pensent pas au monde futur. Les enfants de lumière, ce sont ceux qui ont reçu la lumière de la foi. Les enfants de ce siècle sont dits prudents dans leur monde, c'est-à-dire qu'ils sont habiles dans leurs relations à l'égard de ceux de leur espèce. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité, afin que, lorsque ils viendront à manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Que veut donc dire notre Seigneur quand il appelle les richesses « mammona iniquitatis », un mammon d'iniquité? Sans doute veut-il dire que souvent, les richesses sont obtenues par des moyens malhonnêtes. Qu'on pense à l'usure qui enrichit les banques, aux impôts injustes, comme les impôts sur les successions, qui enrichit l'État, aux spéculations boursières, aux opérations malhonnêtes, dans les commerces, etc. Mais il est plus vraisemblable que notre Seigneur a donné à cette expression un sens encore plus général. S'il ne s'agissait que de l'argent mal acquis, nous ne serions peut-être pas concernés. Mais ici, notre Seigneur appelle un mammon d'iniquité l'argent et toutes les richesses dans la mesure où elles sont une occasion de péché. Et de fait, si l'on y réfléchit, l'argent occasionne bien des fautes. avarice, envie, brouille, dispute, haine parfois. Voilà pourquoi notre Seigneur nous dit « Faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité. » Au lieu de vous servir de l'argent pour faire des péchés, utilisez-le pour faire du bien autour de vous. Et comme nous le disions au début, par les richesses, il faut entendre tous les talents que le bon Dieu nous a donnés. Soyons ingénieux. Tâchons de faire servir ces talents que nous avons pour nous faire des amis, c'est-à-dire pour exercer et augmenter la charité. Charité qui est une amitié surnaturelle. Car c'est la seule richesse que nous emporterons avec nous après notre mort. Tout le reste, nous le laisserons ici-bas. Mais nous partirons avec la charité que nous aurons gagnée sur cette terre, et c'est là-dessus que nous serons jugés. S'il n'y a pas de charité du tout, c'est l'enfer. Et si nous avons de la charité, nous irons plus ou moins haut dans le ciel selon le degré de charité. Alors, faisons un examen de conscience. Qu'est-ce que je fais des talents que le bon Dieu m'a donnés? Est-ce que j'en fais profiter les autres? Est-ce que je suis ingénieux et que le bon Dieu pourra me louer d'avoir agi prudemment? Ou bien, est-ce que j'entendrai comme celui qui avait reçu un talent et qui ne l'a pas fait fructifier? Enlevez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a 10 talents. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un dernier mot pour une dernière objection. Mais moi, je n'ai aucun talent. Je n'ai pas de santé. Je n'ai pas de vertu. Je suis un pauvre pécheur, incapable de tout bien. Vraiment? Vous n'avez rien? Vous n'avez pas même une volonté? Oui, mais ma volonté est mauvaise. J'ai mauvaise volonté. Il ne tient qu'à vous de la rendre bonne. Personne ne peut vous en empêcher. Il suffit d'ailleurs de le demander à Dieu. Il est capable de transformer nos volontés, même rebelles. Nous l'avons entendu il y a quelques semaines dans une secrète. A te nostras etiam rebelles compele voluntates. Dans votre bonté, contraignez en quelque sorte à rendre bonnes nos volontés rebelles. Et puis vous dites que vous êtes un pécheur, un pauvre pécheur. Eh bien, vous voilà encore riche. Quand même, vos péchés sont une richesse. Il y a ici une plaquette sur l'art d'utiliser ses fautes. On dit que c'était une spécialité de Saint François de Sales d'apprendre à se diriger, à se servir même de leurs défauts, même de leurs fautes, pour se sanctifier, en les rendant plus humbles et plus prudents. Tout sert au bien de ceux qui aiment Dieu, dit Saint Paul, et Saint Augustin ajoute, etiam peccata, même les péchés. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit, au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Sainte Thérèse avait donné tous ses biens en entrant au Carmel. Mais ensuite, pendant les 10 ans qu'elle a passé au Carmel, elle a continué à donner, à faire du bien autour d'elle, à ses sœurs. Et bien qu'elle nous apprenne à être prudents, plus prudents même que les enfants de ténèbres, en utilisant toutes nos richesses pour nous faire des amis. Et d'abord, pour nous faire un grand ami qui est Jésus et une grande amie qui est la Sainte Vierge. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.